Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Ah, Félix, je viens de faire une entrevue avec un champion de tir au poignet. T'es-tu le genre à t'asseyer, toi? Est-ce que Félix est là?
Oui, je suis là, Charles. Je sais pas
oui.
Si tu m'entends?
Oui, très bien.
Bon, j'étais justement pour te proposer, d'être, comme on disait par chez nous en Abitibi-Témiscamingue, de te pogner au bras de fer un de ces quatre, en respectant les règlements. Bien sûr. Hey, je me rappelle, moi, d'avoir tiré au poignet, mais souvent, dans ma jeunesse, dans mon adolescence, puis je me rappelle les règles, et puis je me je trouve ça fascinant, cette entrevue-là. Sais-tu pourquoi? Parce que ça met en valeur, en tout cas pour moi, il y a un caractère sociologique là-dedans, c'est que ça met en valeur les hommes forts, entre guillemets. Québec, chaque village avait son homme fort. En tout cas, chez nous, c'était Placide Renaud qui avait une porte surhumaine. Puis ça jasait au village en disant « J'ai pogné Placide hier au tir au poignet, je l'ai battu ou je l'ai pas battu, il a triché, il a cassé mon... Bon. » Alors, j'ai adoré cette entrevue-là.
On devrait faire un film de super-héros au Québec, comme les X-Men, mais tu sais, ça serait Joe Monferrand, Louis Cyr, le gros Antonio, tu sais.
Oui. Et Placide Renaud.
Dans tous les bars du Québec, dans chaque région, il y a tout le temps un gars qui est assis dans le coin, puis tu veux-tu t'essayer? Il y en a tout le temps. Toujours un comme ça. Alors, écoute, 40 mois pour cette institutrice là, qui a agressé un élève de 16 ans.
Oui, c'est intéressant de parler du cas de Geneviève Rioux ce matin, qui a été condamnée à 40 mois de prison parce que 40 mois de prison d'abord pour avoir agressé son élève de la polyvalente Sainte-Thérèse alors qu'elle était elle-même intervenante. Spécialisée, éducatrice spécialisée, qui était formée pour intervenir auprès des jeunes vulnérables. Donc, sans dévoiler le nom de la victime, on comprend qu'elle était en relation professionnelle avec celui-ci, mais elle en a profité pour l'agresser sexuellement, et ça à plus d'une reprise, même après avoir été arrêtée une première fois. Elle a continué cette relation qui, dit-elle, était une relation amoureuse, atypique, mais amoureuse, qu'elle a entamé après avoir subi une grande peine d'amour. Elle dit que c'était un peu comme Céline et René. D'ailleurs, je note au passage, je ne sais pas, René Angéline et Céline Dion, si leur idylle avait commencé à notre époque actuelle, si elle aurait été tolérée comme à l'époque passée. En tout cas, quoi qu'il en soit, pourquoi c'est intéressant d'en parler, c'est parce qu'on a une perception, hein. Dans les yeux du public, la perception est différente quand une femme dans un meurtre comme ça est en relation avec un adolescent, que c'est peut-être un peu moins grave, que ça mérite peut-être une sentence moins grave aussi. Alors que la justice, ce qu'elle nous dit aujourd'hui, c'est que c'est pas le cas. Hein, quand on subit, là, quand on est accusé d'un geste criminel, il y a des étapes. Il y a évidemment la commission de l'acte criminel, l'arrestation, l'accusation, l'enquête préliminaire pour savoir s'il y a matière à procès. S'il y a matière à procès, le procès, le verdict et la sentence. Et juste avant la sentence, il y a une portion des procédures que je trouve très, très intéressante, c'est justement l'audience sur les observations sur la peine. C'est ce que rapporte Erika Aubin aujourd'hui dans le Journal de Montréal qui s'est tenu hier au Palais de justice. Alors, la juge, dans ce cas-là, ce qu'elle a pris en considération pour rendre sa sentence, c'est la position d'autorité. Donc, ce jeune homme-là, il était subordonné. Et ça nous prouve également que ça fait toute la différence. Parce que 40 mois de prison, là, c'est une sentence fédérale. C'est pas une sentence dans une prison provinciale là, pour femmes, c'est une sentence fédérale. C'est une sentence lourde, alors que la défense demandait dans ce dossier 90 jours de prison à purger le week-end. La juge a dit que ça sera pas le cas du tout.
Ah, oui.
c'est ça qui est intéressant à observer. Elle dit qu'elle a créé un climat de dépendance puis qu'elle a profité de la situation pour abuser son élève.
Et puis on dit, la loi, c'est la loi, que tu sois une femme ou un homme, t'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec un mineur, tu sais, que tu sois un... Parce qu'il y a bien des gars... Toi, as-tu déjà eu une prof cute quand t'étais jeune? Tu disais, oui.
Je veux dire, comme tout adolescent, il y a des choses qui relèvent du fantasme aussi. Quand on commence notre éveil sexuel, puis c'est bien vrai. Je me rappelle, tu m'avais déjà fait part de l'histoire d'un de tes amis là, qui avait une gardienne, je crois, avec qui il avait eu des ébats, un peu forcé, mais il trouvait pas ça intéressant.
Non, il trippait pas pantoute là. Parce que là, il y a des gens qui disent, écoute, s'il y a eu des relations sexuelles complètes entre le jeune et la femme, on sait comment ça fonctionne, une relation sexuelle. Il faut qu'il y ait un désir pour qu'il y ait pénétration. On veut dire, ça veut dire que le gars était plus ou moins consentant, etc. Il y a des gens qui se posent, mais t'as pas le droit. La loi, c'est
non,
la loi.
Puis t'as pas le droit pantoute, en fait. Et ça relève aussi. Donc, on a parlé de la position d'autorité qui est jugée comme un facteur aggravant. Parce que quand on rend une sentence, là, on doit préserver la confiance du public dans l'administration de la justice. Donc, la sentence doit refléter la gravité de l'acte. Et donc, on parlait justement de cette relation professionnelle. Et elle dit, la juge, probablement un des passages les plus intéressants de son jugement, le déséquilibre de pouvoir rend le consentement invalide. Alors, encore une fois, tout réside dans le consentement. Et quand on est en situation d'autorité sur quelqu'un, ça excite le consentement. Il n'existe plus, ce consentement-là, dès qu'on est en position d'autorité. Et je cherchais des chiffres ce matin pour pouvoir essayer placer des raisons, en fait, qui nous... Parce qu'on en parle beaucoup de cette affaire-là de Geneviève Rioux aujourd'hui, en raison justement du fait que ce soit une femme, que la sentence est élevée et tout ça. Et je me questionnais à savoir pourquoi on a, entre autres, cette perception-là. Écoute bien, ça, bon an, mal an, là, et c'est Statistique Canada qui le révèle, il y a 233 000 femmes qui sont arrêtées, des auteurs présumés d'actes criminels, d'avoir enfreint le Code criminel du Canada, contre 776 000 hommes, adultes et jeunes. Donc, tu vois probablement que ça induit ce chiffre-là chez nous. Je suis pas criminologue, mais ça induit, étant donné la sous-représentation des femmes qui sont arrêtées pour des gestes illégaux, ça induit probablement chez nous cette idée que, ben écoute, ça arrive pas souvent, c'est une femme, c'est pas un homme, mais la justice, comme tu le dis, est la même pour tout le monde. Je trouvais que cette statistique-là était intéressante.
Ben, tout à fait.
Qui est un peu notre perception.
Tout à fait, très intéressant. Bon Dieu, écoute, un petit gars qui se promenait en scooter, un adolescent qui était frappé par un camion et qui est décédé finalement. Évidemment, comme parents, ça nous touche droit au cœur.
Oui, ça nous touche et on est toujours... quand on parle parce que pour certains, ça peut relever du fait divers, un accident de scooter, puis notre job dans cette chronique-là, Richard, c'est de rendre ces faits divers-là. Moi, j'ai toujours été en désaccord avec l'appellation faits divers, quoi qu'il en soit, pour qu'ils nous parlent un peu plus du point de vue sociologique ou en tout cas sociétal de l'affaire. Et donc, c'est un accident qui est survenu à 21h à Drummondville, collision avec une camionnette. Selon les premières informations, là, c'est survenu à un feu de circulation. Et puis, il a été transporté d'urgence à l'hôpital, jugé dans un état critique, cet adolescent qui a succombé à ses blessures. Moi, je te parle de ça parce que on est aussi porté à parler de ça par nos expériences personnelles. Moi, d'expérience, je t'ai dit que j'ai grandi en Abitibi-Témiscamingue. En Abitibi-Témiscamingue, on a toujours à se déplacer en auto. Prendre l'autobus, ça
ben
est
oui, ben
peu
oui.
ou pas.
Ben oui.
Prendre l'auto quand on n'a pas l'âge de conduire, ben, dans le montant, ça existait. Là. Mais en tout cas, et essentiellement, on ne conduit pas, mais à 14 ans, on peut avoir un permis de ce qu'on appelle une mobylette ou encore un scooter, pour dire le terme exact, un cyclomoteur.
Et oui.
Moi, je me rappelle que mes parents ont toujours été foncièrement contre le fait, d'ailleurs j'en ai jamais possédé, que j'aille un cyclomoteur parce que ces petites cylindrées-là, moins de 50 cc, roulent aux côtés de camions qui dire des remorques de bois en longueur qui roulent à 110 km/h dans des routes assez étroites. Ils y voyaient un danger énorme. Et les statistiques, en fait, tendent à leur donner raison. Les dangers là, de la conduite à cyclomoteur, on le voit, là, c'est 22 fois plus important qu'en voiture.
Ah, ouais.
Il y a 23 % des morts sur la route. Et là, je te parle de statistiques françaises parce que je n'ai pas les statistiques québécoises, parce qu'au Québec, on englobe les conducteurs de cyclomoteurs dans la catégorie des motocyclistes, mais en France, c'est 23 % des morts sur la route qui étaient en scooter. Tu vas me dire, il y en a beaucoup plus en France de scooters. Oui, exactement. Mais il y a aussi une recrudescence de la popularité des scooters au Québec. Selon la SAC, tu vois, en 2019, il y en avait 25 000 immatriculés. Et l'année après, il y en a eu 28 500. C'est un bond de 1 500 dans une année. Et c'est des petits véhicules qui peuvent être assez dangereux, je le rappelle.
Je sais pas si t'es allé à Paris récemment, ces dernières années, mais les trottinettes électriques, écoute, c'est un danger là, public incroyable. Ils vont super vite là, dans la rue, sur les trottoirs. Je suis convaincu qu'il va avoir...
T'as pas besoin d'aller à Paris.
Oh non.
Ça va juste sur le plateau un peu.
Oui. Ah oui, il y en a beaucoup.
Écoute,
très dangereux. Et en terminant, parce qu'il y a une histoire qui m'a accroché moi aussi, et toi aussi, j'en ai parlé en début d'émission, cette journaliste italienne qui poursuit son employeur parce qu'on l'a forcé à partager son bureau avec un gars qui pète.
Bon, moi, j'adore l'administration de la justice et j'adore aussi quand on la saisit, cette justice-là, de petits problèmes qu'on n'est pas capable de régler entre adultes. Alors, il y a une journaliste de la RAI, qui est la télé d'État, en fait, italienne, là. Puis d'ailleurs, si vous écoutez, si vous avez regardé la RAI, je fais un aparté, là. Si vous pensez que des pays qui sont moins forts là en production télévisuelle que d'autres, vous avez bien raison. Et si vous regardez qu'est-ce qui se fait en Italie, en télé, en continu, pas en nouvelle, je vais vous dire... On n'a pas de quoi rougir, parce que c'est pas toujours bon.
Ah non, mais la télé italienne, c'est hallucinant, là. Vraiment, c'est une des pires télés au monde.
Alors, oui,
bon. Alors, le gars pétait, puis il rotait en plus, ça. Hein?
Oui, c'est ça. Alors, ce qui est très drôle, c'est que les Italiens sont passionnés de cette saga judiciaire-là. Ça dure depuis 4 ans. Ça fait dur depuis 4 ans. En novembre 2018, la journaliste Dania Mondini a porté plainte contre 5 de ses boss. Puis dans sa plainte, c'est une lectrice de nouvelles là, au téléjournal, là, elle dit, et je cite, elle parle d'émissions bruyantes répétées et malodorantes. Ce sont donc des flatulences. Et le nom du flatuleur, appelons-le comme ça, n'a pas été rendu public. Mais ce qu'elle dit à ses patrons, à la justice, en fait, c'est que ses patrons l'ont obligé, alors, insister pour qu'elle partage la même pièce que ce collègue malodorant et que c'est une campagne d'intimidation contre elle liée à une rivalité professionnelle. Donc, ce que je décode de ça, c'est que pour la punir, on dit, tiens, tu vas aller avec dans la pièce du gars qui pète.
Le péteux.
On va dire... je sais pas, c'est une drôle de manière de résoudre ces conflits, mais bref, c'est devant le tribunal, c'est ça.
Non, mais Félix, attends une minute, là, s'il y a un procès, moi je veux voir ça. Le gars qui est dans le box des accusés, est-ce que c'est vrai que vous pétez? Oui, combien de fois par jour vous pétez? Est-ce que non, je veux voir ça avec des experts qui vont là puis qui vont parler de ses pets et tout ça. Écoute, là, je veux que ça soit diffusé avec des sous-titres français en dessous, là.
Oui. Ben, compte sur certaines télé italiennes pour en faire un compte-rendu.
Mais il y a des gens qui puent quand même. Partager un petit bureau avec quelqu'un qui sue beaucoup et qui pue, c'est pas toujours agréable non plus. Donc, merci beaucoup, Félix.
Non, je sais, Richard, à un moment donné, il y a des choses qui se disent aussi, t'es obligé d'aller au tribunal.
Effectivement. Mais oui, tout à fait. Merci beaucoup. Salut, Félix.
OK. Bye.